chers amis, bien-aimés frères et sœurs, que nous le voulions ou non, nous sommes dans ce temps de Noël, et quelles que soient les pensées que nous ayons sur ces fêtes, il n'en est pas moins vrai que l'on pense à la naissance du Seigneur Jésus. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir, c'est de vous parler en quelques mots de ce que ceux qui ont vu le Seigneur en tout premier lieu ont pu découvrir en lui. Et nous allons nous poser cette question: est-ce que nous avons vu en Jésus ce que ont découvert 2000 ans bientôt après sa naissance? Que pouvons-nous dire que nous avons trouvé en Jésus? Et ce qui me frappait en réfléchissant devant Dieu à cette soirée, c'est que dans les premières pages de la Bible, Dieu faisait la promesse de nous envoyer un sauveur, un libérateur. Est-ce qu'il a tenu sa promesse? Oui ou non? Quelle que soit la manière dont le monde célèbre Noël aujourd'hui, c'est quand même encore un témoignage que Dieu a tenu sa promesse. Et que dans ce monde apparut un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Adam et Ève venaient de transgresser la parole de leur Créateur, qui, dans sa sainteté, se voyait obligé de les expulser de ce jardin de délices et de charmes où il les avait placés. Mais dans son cœur plein d'amour, il ne pouvait pas les laisser hors d'Éden sans avoir mis dans leur cœur une espérance. La promesse qu'il n'en serait pas toujours ainsi. Et quand il a donné son jugement contre Satan, et qu'il lui dit au chapitre 3 de la Genèse, au verset 15, il lui dit ces paroles, je voudrais vous les rappeler: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage, ou entre sa postérité et ta postérité. » Et nous lisons ensuite: « Celle-ci t'écrasera la tête. » Donc la postérité de la femme, non pas la femme elle-même, mais la postérité de la femme, et toi, tu lui blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle le protévangile, la première promesse que Dieu fait à ce couple. C'est qu'un jour, la puissance de Satan sera écrasée, éparpillée. Par ce qu'il appelle la postérité de la femme. Et vous savez tous que, au fond, nous sommes la postérité de l'homme. Nous sommes la postérité de l'homme. Et alors, il y a là une exception. Quelqu'un sera la postérité de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, même si vous avez été élevé dans l'Église romaine et qu'on vous ait dit pendant longtemps que c'était Marie qui avait écrasé la tête du serpent, maintenant il y a un correctif même dans les traductions, et qui montre bien que la postérité de la femme, ce n'est pas Marie. Marie a donné naissance au Seigneur. Celui qui a écrasé la tête du serpent, c'est la postérité de la femme, mais la postérité de la femme, c'est le Christ. Et cette promesse que Dieu a faite dans les premières pages de la Bible, vous savez qu'il l'a confirmée au temps d'Abraham, au patriarche qu'il avait appelé Ur de Chaldée pour en faire le père de tous ceux qui croiraient. Notre père Abraham, le père d'abord du peuple d'Israël. Il lui dit au chapitre 12 de la Genèse, et vous pouvez feuilleter votre Bible à travers toutes ces pages bénies, vous y retrouverez toujours que Dieu souligne sa promesse. Je lis au chapitre 12, simplement. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité ou en toi. Donc là nous avons la confirmation que ce libérateur ne serait pas seulement pour la postérité d'Abraham, mais pour toutes les nations de la terre. Et cette promesse, il la confirme encore à Abraham, après qu'Abraham eut manifesté tout l'amour qu'il avait pour son Dieu en étant prêt à offrir Isaac en sacrifice. Et vous avez cela dans le chapitre 22 de la Genèse, quand l'ange de l'Éternel, au verset 15, appelle Abraham une seconde fois, il lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé, ton fils, ton unique, je te bénirai et te multiplierai comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Tu posséderas la postérité à la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Donc, de nouveau, Abraham est confirmé que de sa postérité sortirait quelqu'un qui serait en bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et j'abrège, on pourrait s'arrêter au chapitre 26 où Dieu confirme alors à Isaac lui-même qu'à cause d'Abraham et de son obéissance, eh bien, toutes les nations de la terre serait béni en sa postérité. Vous avez cela au chapitre 26, au verset 4. « Je multiplierai, dit Dieu à Isaac, ta postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai de ta postérité, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi. » Et puis, quand Jacob est en fuite et qu'il fait son songe au chapitre 28 de la Genèse toujours, eh bien, même à Jacob, la même promesse est confirmée, que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Donc, béni en la postérité d'Abraham, postérité d'Isaac, postérité de Jacob. Et si vous continuez, vous verriez que le Seigneur confirme au temps de Moïse, par exemple, au chapitre 18e du Deutéronome, Moïse dit qu'il va se lever un prophète comme lui et que le peuple doit l'écouter. Et ce prophète n'est autre que le Seigneur Jésus. Et la promesse aussi est donnée à David au temps de la royauté qu'il y aurait un descendant de sa postérité qui serait en bénédiction à toutes les nations de la terre. Et quand vous arrivez dans au temps des prophètes, eh bien, vous connaissez bien ce chapitre que l'on cite un peu dans tous les milieux religieux en ces jours, le chapitre 7 du prophète Ésaïe, où il est donné comme signe, le signe qu'une jeune fille serait enceinte, la Vierge, verset 14 du chapitre 7 d'Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et nous pourrions continuer au travers de ce prophète Ésaïe au chapitre 9e. Le nom du Rédempteur nous est donné, ces noms qu'il porterait et qui nous sont si précieux, qui nous sont si chers. On l'appellera conseiller, verset 5 du chapitre 9. Admirable, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Tout cela était donc annoncé, mais les siècles ont passé et il semblait que rien ne se réalisait de cette promesse que Jacob lui-même avait attendu, parce que dans son témoignage de mourant, il dira au chapitre 49 de la Genèse, il s'arrête après avoir donné à plusieurs de ses enfants déjà sa bénédiction, il dit « J'ai attendu ton salut ». Ça veut dire « J'ai attendu ton Jésus », littéralement. « J'ai attendu ton salut », puisque salut et Jésus, c'est le même nom. Or, mes amis, cette promesse qui était l'espérance des Juifs pieux et qui attendaient et qui voyaient au fond tout le contraire se passer. Les Romains occupaient le territoire d'Israël, ils étaient asservis, ils étaient dans la souffrance, quand tout à coup l'ange est venu. Et vous savez, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, que l'ange arrive à Nazareth, l'ange Gabriel, tout cela, vous le savez, je ne fais qu'évoquer certains souvenirs, mais qui sont justes et qui doivent nous empoigner. C'est la plus merveilleuse histoire. Elle, l'ange a trouvé en Marie une vierge remplie de ses promesses. Elle était toute jeune, on pense qu'elle n'avait peut-être que 15 ans quand elle fut visitée, puisque de ce temps-là, et en Orient, on se mariait très jeune. Elle était fiancée à Joseph, mais elle n'avait pas eu de relation avec lui. Et voilà que l'ange vient lui dire qu'elle serait enceinte et que se réaliseraient pour elle toutes les promesses auxquelles elle croyait. Mais comment ces choses peuvent-elles se faire? Il n'était pas dit comment une vierge pouvait être enceinte sans connaître un homme. Et elle se soumet quand même devant cette impossibilité. Elle courbe la tête, elle s'écrie « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». J'aime beaucoup ces expressions. car cela nous montre bien que servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour lui, comme je le répète souvent, mais c'est se laisser faire par lui. Est-ce que dans vos vies en 1992, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser faire par lui? On veut faire des choses pour lui. Et le Seigneur nous demande simplement, es-tu prêt à te laisser faire par moi? Marie accepte que le Seigneur fasse en elle ce qu'il trouvera bon. Vous avez cela dans Luc au chapitre 1, verset 26. Mais le cher Joseph, que va-t-il penser quand il retrouvera sa fiancée qu'il a respectée, mais qui se trouve être enceinte? Et elle peut bien lui dire qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Joseph n'est pas un idiot. Et pour croire une chose pareille, eh bien, son raisonnement est juste. Il n'y croit pas. Et alors, que faut-il? Eh bien, il faut qu'il répudie cette Marie, ou même qu'il la dénonce. Et la dénoncer, c'est la condamner à la mort. Donc Marie, quand elle a accepté que la volonté de Dieu se fasse en elle, elle a accepté de mourir. Et je crois que c'est toute la vie chrétienne. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus, c'est pas simplement le salut, comme on dit. C'est de mourir dans sa mort. Comprenez-vous? Et c'est ça que Marie nous enseigne. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Les leçons de Marie, mère de Jésus. Elle nous enseigne que la première chose que nous devons accepter, c'est pas simplement, ah ben je serai sauvé, mais j'accepte que ce qui se passe, ce que Dieu veut pour moi, s'accomplisse. Mourir à cette vie passée pour que Dieu puisse nous donner une vie entièrement nouvelle. Alors, c'est Dieu qui va s'occuper de Marie et qui va intervenir en envoyant son ange auprès de Joseph lui-même. Alors, ça vous l'avez dans Matthieu au chapitre 1. Ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Alors, il a la confirmation. Et tu appelleras son nom Jésus. Voilà que Joseph apprend qu'il va être au fond le père putatif de ce sauveur du monde. C'est lui qui sauvera son peuple, ce peuple de ses péchés. Quelle nouvelle! Et il reçoit Marie. Mais Élisabeth Nazareth. Or, c'est très clair que le Messie ne doit pas naître à Nazareth. Alors que faut-il? Eh bien, vous avez cela dans Luc au chapitre 1er, au chapitre 2e, un décret de César Auguste, un décret qui vient de Rome et qui va arranger toutes choses. Il faudra que Joseph et Marie, qui sont de Bethléem, fassent le voyage pour aller se faire enregistrer à Bethléem. Et c'est ainsi que naîtra notre Sauveur à Bethléem. Voyez-vous, nous sommes là toujours dans cette expectative. Il y a des choses qui sont dites dans la parole. Puis on ne voit pas encore aujourd'hui que ça se passe comme cela. Mais il suffit de quelques jours d'un décret et qui remette toutes choses au point. C'est pourquoi nous ne devons pas douter de la parole, même si ça n'apparaît pas exactement comme c'est dit aujourd'hui. Demain, ça sera là. Quand l'heure est venue, tout est à sa place. Joseph et Marie sont en voyage à Bethléem et c'est là qu'elle a soudainement ce besoin et qu'elle ressent d'enfanter. Il n'y a pas de place, vous connaissez toute l'histoire et la fameuse crèche. Et c'est là que le Seigneur naîtra dans cette grotte auprès des animaux. L'histoire du bœuf et de l'âne qu'on vous raconte souvent, d'où l'a-t-on tiré au fond? D'Ésaïe, chapitre 1er, n'est-ce pas? Le bœuf connaît son possesseur. et l'âne la crèche de son maître. Donc, qui est-ce qui a vu en premier le Seigneur? Ce sont les animaux, le bœuf et l'âne. Moi, je trouve ça admirable, parce que le Seigneur est venu aussi pour les animaux. Et le juste, il prend soin de sa bête. Et les premiers qui ont vu, les premiers êtres vivants qui ont vu le Seigneur, c'était bien ce bœuf et cet âne dont on parle toujours, mais qui se trouve bien dans le chapitre premier d'Ésaïe pour dire « Le bœuf et l'âne connaissent son possesseur, mais Israël ne me connaît pas. Les animaux reconnaissent le Seigneur, mais et s'attendent à lui bien souvent, tandis que nous, hélas, nous avons toutes sortes d'objections. Et alors après, qui seront les premières personnes convoquées par le Seigneur pour voir le Seigneur? Ben, ce sont les pauvres de la terre. Selon toutes les prophéties de l'Écriture, c'était les pauvres qui verraient le Sauveur en premier lieu. Et il y a les chants de Bethléem, l'apparition de l'ange aux bergers. C'est quelques bergers qui sont dans les champs, ce qui montre bien que ce n'est pas à cette époque de Noël que le Seigneur est né. La date a peu d'importance pour nous, mais que les hommes aient voulu choisir un jour pour se rappeler de la naissance du Seigneur, cela ne nous gêne pas. Mais au fond, ça devrait être tous les jours Noël pour nous. Hein. Tous les jours, nous devrions vivre cette pensée dans nos cœurs. Il est venu, c'est vrai qu'il est venu, c'est vrai que nous avons eu un sauveur. Qu'ont fait les bergers après avoir eu cette vision céleste? Eh bien, ils auraient pu dire, bon, non, allez à Bethléem, nous venons d'avoir une vision, enfin, mais qui n'est peut-être pas vraie, une illumination. Non, ils y sont allés, allons, et puis nous verrons si cette chose est vraiment arrivée. Et ils y vont. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils saluent? Lisez le chapitre 2, repassez cela dans vos cœurs. Ils ont vu ces pauvres en Jésus, leur sauveur. Et je trouve que c'est tellement merveilleux que Jésus soit né dans une étable. Parce que les bergers n'ont pas eu besoin de courir à la maison pour changer de vêtements, pour aller voir quelqu'un dans une étable. Pour voir quelqu'un dans une étable, on peut y aller avec ses vêtements de travail. Ils y sont allés avec leurs vêtements tels qu'ils étaient. Si Jésus était né dans un palais, eh bien, il n'aurait pas pu entrer. Là, dans une étable où se trouvent déjà des animaux, ils peuvent entrer. Les pauvres ont eu la première place. Et cette étable est devenue le premier temple chrétien où on a adoré vraiment le Sauveur promis. Et alors après, bien, si nous voulons simplement remarquer ces choses, le Seigneur n'est pas venu seulement pour les pauvres, il est venu aussi pour les riches, les gens importants. Sont venus de loin les mages de l'Orient. Ça ne s'est pas fait le même jour, puisqu'il n'était plus dans l'étable, mais il était dans la maison avec Marie. Vous trouvez cela dans le chapitre 2 de Matthieu. Eh bien oui, Jésus a été vu maintenant par des gens cultivés, par ces rois mages qui sont arrivés pour apporter au Seigneur de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils se sont prosternés devant Jésus dans les bras de Marie et ils ont apporté leur présent. Et qu'ont-ils vu en Jésus? Les pauvres ont vu leur Sauveur qui, de dessus le fumier, élève le misérable. Et puis les riches ont vu leur Seigneur qui les a abaissés à son niveau. Et c'est ainsi que quand un riche trouve le Seigneur, il est mis au niveau du pauvre, tandis que le pauvre est mis au niveau du riche. Quelle richesse, n'est-ce pas? L'égalité, nous ne l'avons que dans la rencontre de Jésus. Les pauvres sont élevés jusqu'à lui, mais les riches sont abaissés et pourront employer leur richesse pour partager avec ceux qui en ont besoin. Donc, les pauvres voient leur sauveur, les riches voient en lui leur Seigneur. Et après, si vous continuez cette étude ainsi, qui a vu le Seigneur? Eh bien, c'est un vieillard. On ne pense pas souvent au vieillard. Un vieillard, un homme à la fin de sa course, mais qui avait aussi cette promesse dans son cœur qu'il ne fermerait pas les yeux sans avoir vu le Christ, le Seigneur. C'est Siméon, chapitre 2 de Luc. Et quand Marie et Joseph viennent présenter le Seigneur au temple, le vieillard Siméon, poussé par le Saint-Esprit, il ne peut pas résister à cette puissance de l'Esprit qui le place là où il rencontrera le Seigneur. Et quand il voit l'enfant, il le prend dans ses bras. Et j'aime tellement cette expression, il regarde cet enfant. Et que dit-il, rayonnant de joie dans sa vieillesse, mes yeux ont vu ton salut. Pour lui, ce petit enfant, c'est le salut de Dieu. Et puis, il ajoute une lumière pour les nations, donc ça rejoint les bénédictions d'Abraham. C'est pas seulement le salut de Dieu pour Israël, mais une lumière pour les nations et la gloire d'Israël. Et quand Israël reconnaîtra que Jésus est vraiment son sujet de gloire, tout sera apaisé, tout sera changé pour le peuple d'Israël. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que nous apprenons? Eh bien, une femme veuve. Et vous savez, il est dit que le service religieux pur et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves dans leur affliction et à se garder pur du monde, dans Jacques, au chapitre 2. Eh bien, la personne après Siméon, qui a vu le salut de Dieu, qui a salué en Jésus le salut de Dieu, la lumière pour les nations et la gloire d'Israël, c'est Anne, la prophétesse, qui était veuve et qui avait quel âge? 84 ans. Et c'est très rare qu'on trouve le nombre d'années que vécut une femme. Dans l'Ancien Testament, nous ne connaissons que l'âge de Sarah, qui est en quelque sorte notre mère. Elle a 127 ans, mais habituellement, on ne donne pas dans l'Ancien Testament l'âge des femmes. Eh bien, dans le Nouveau Testament, Anne, son âge nous est donné. Elle avait 84. Et à 84 ans, elle peut voir le Seigneur. Et son cœur est tellement rempli du Seigneur qu'elle parlait de lui à tous ceux qu'elle rencontrait. Quand le cœur est rempli du Seigneur, la bouche en parle. Quel que soit l'âge, elle était rayonnante de joie. Voilà une veuve qui a vu le Seigneur. Et il y a des veuves aujourd'hui qui peuvent voir encore en Jésus ce que Anne a vu, car il n'a pas changé, il est toujours le même sauveur. Puis je dirai ensuite que lorsqu'il eut 12 ans, notre Seigneur s'est trouvé au milieu des sages de son peuple. Toujours au chapitre 2 de Luc, vous apprenez qu'ayant 12 ans, il est allé avec ses parents à Jérusalem, et là, il est resté dans le temple, alors que ses parents étaient pris par différentes choses. Lui, il est resté à discuter, à poser des questions à ces hommes sages, et quand les parents retrouvent leur fils après toutes les inquiétudes qu'ils ont eues en découvrant qu'ils n'étaient pas avec les enfants qui devaient suivre le groupe, eh bien, vous connaissez la réponse de Jésus. Pourquoi vous mettiez-vous en souci? Ne savez-vous pas que je dois être occupé des affaires de mon Père? Et les sages de Jérusalem étaient étonnés par les réponses du Seigneur. Eh bien, aujourd'hui encore, le Seigneur peut étonner les plus sages de ce monde et les amener à reconnaître la supériorité de l'enseignement du Christ. Mais ensuite, alors, passons plus loin, Jean-Baptiste a été suscité à l'heure où Dieu le voulait, et après 30 ans de silence, 30 ans où Jésus a vécu après l'exil en Égypte, à Nazareth, où il a été l'ouvrier charpentier de Nazareth, après qu'il ait été le témoin de son père, au milieu des siens, de sa famille de Nazareth, il s'en va au baptême de Jean. Et vous connaissez la suite. Quand Jean le voit, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, la promesse de la Genèse allait s'accomplir. Jésus ne venait pas simplement pour enseigner des paroles merveilleuses que nous avons dans les évangiles, mais il venait pour écraser la tête du serpent auquel il résiste. Nous aurions bien voulu être de ceux qui l'ont vu. Eh bien, je vous dis, comme Jésus l'a exprimé à Thomas, je vous dis, vous êtes des bienheureux. Car Thomas a dit, si je ne mets pas les doigts dans l'empreinte de ses clous, je ne croirai pas. Hein. Et puis, ensuite, quand Jésus vient une seconde fois, et qu'il peut mettre sa main dans son côté et son doigt dans l'empreinte de ses clous, alors il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis Jésus lui répond, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et bienheureux ceux qui m'ont pas vu et qui ont cru. Et alors je termine par cette parole que vous trouverez dans le chapitre premier de la première épître de Pierre. Oui, nous ne l'avons pas vu, mais je sais et je sens dans vos prières, je le sais parce que je vous aime et que je me rends compte de vos besoins aussi. Bien, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Vous l'aimez. Verset 8. Vous l'aimez. Le chapitre 1er de Pierre, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre salut, nous ne l'avons encore qu'en espérance, comprenez-vous. Nous sommes encore dans des corps de faiblesse, mais le plein salut, nous l'aurons quand il apparaîtra, mais là, il nous est dit qu'il reviendra. Il reviendra. Jésus apparaîtra, il est dit dans les versets précédents. Alors, s'il est venu une première fois, et c'est pour ça que je suis allé dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il était promis une première fois? Oui, mais ça, vous n'avez pas de doute. Est-ce que ces promesses se sont réalisées? Oui, à un tel point que simplement avec les versets de l'Ancien Testament, on pourrait écrire une vie de Jésus. Avant qu'il naisse, tout était si précis. Et savez-vous qu'il y a plus de 1500 textes dans l'Ancien Testament qui annoncent son retour? sa seconde venue en gloire et en puissance. Il est venu comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde, mais il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Et nous devons être comme ce petit groupe de croyants du temps de Zacharie, d'Élisabeth, de Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Nous devons être de ceux qui l'attendent. Et voyez-vous, je me souviendrai toujours de ce frisson qui passait au stade olympique quand on m'avait demandé de parler sur Marie devant 40 000 personnes catholiques. Quand j'ai montré l'ange venant à Nazareth, et que j'ai dit, si l'ange venait à Montréal, vers telle jeune fille pourrait-il aller pour la trouver vierge? Et vous savez, il y avait un grand silence. Quand on voit ce qui se passe dans les écoles et partout, eh bien, voyez-vous, quand on dit qu'on aime Marie, eh bien, mes amis, il nous faut suivre son exemple. Et nous ne devons pas avoir peur de parler de Marie. Il ne faut pas que le monde croie que nous ignorons Marie. Nous parlons de toutes les femmes de la Bible sauf de Marie. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas aussi, nous ne pourrions pas aussi parler de Marie? Elle est bienheureuse entre toutes les femmes. Elle a obéi. Elle est aussi un exemple pour nous. Et bien que Dieu nous donne d'avoir un témoignage complet et d'avoir un cœur ouvert pour que le monde qui nous entoure, le monde qui ne nous comprend pas, le monde qui a des préjugés à notre égard, qui pense que nous ne croyons pas à toutes les vérités bibliques, oui, nous y croyons, mais nous voulons pas seulement être de ceux qui croient à des théories, mais de ceux qui vivent ce que la parole nous dit. Nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te remercier parce que si aujourd'hui le monde se rappelle de ta naissance, nous pouvons parcourir ce vaste chemin à travers toutes les Écritures et considérer que aucune de ces paroles n'est restée lettre morte. Elles se sont toutes accomplies pour la première venue de Jésus. Jésus notre Sauveur, Jésus notre Seigneur, Jésus qui devient le bien-aimé de nos vies, plus nous le connaissons, et nous voudrions qu'il devienne le bien-aimé de nos familles, de nos propres enfants, de nos petits-enfants, de nos épouses peut-être, ou de nos compagnons, mais tu es capable de faire ton œuvre, car c'est une œuvre de salut que tu veux faire aujourd'hui encore. C'est un temps de grâce, c'est un temps de faveur, et nous voulons te prier qu'il y ait encore des miracles de conversion des âmes, et que chacun ici, s'il a reçu Jésus dans son cœur, sache que le salut est entré aussi dans sa maison, et que nous puissions le croire, et être bientôt de ceux qui louent le Seigneur pour les miracles que nous aurons vu autour de nous, dans nos foyers, pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit.